Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ESE Décrypte, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour parler des sujets d'actualité, j'ai le plaisir d'être accompagné par Pascal Beau. Bonjour Pascal.
Bonjour Alexandre.
Alors Pascal, on a retenu deux sujets, il y en a bien d'autres, mais on a retenu notre attention en tout cas a retenu deux sujets. Le premier, c'est les comptes publics. Alors c'est une arlésienne, on en parle souvent, mais l'idée de faire un peu un point sur la situation à l'heure où nous enregistrons ce podcast. Et le deuxième sujet, si vous êtes d'accord, on va parler un petit peu de l'actualité conventionnelle et des derniers rebondissements des négociations entre assurance maladie et syndicats médicaux. Pascal, à tout honneur, enfin à tout seigneur, tout honneur, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, comme dirait l'autre, c'est un peu du lourd, c'est les comptes publics, et en l'occurrence, les déficits des comptes publics. Alors, ces dernières semaines, on a eu beaucoup de chiffres qui sont sortis par voie ministérielle, par voie de presse. On a parlé de 10 milliards d'euros, de 20 milliards d'euros de nécessité d'économie, 50 milliards d'euros d'après certains chiffres de la Cour des comptes. Comment y voir un peu plus clair parmi tout ce, entre guillemets, toutes ces informations ?
Ben, la croissance, Alexandre, sera moins forte que souhaité. Donc, qui dit moins de croissance dit moins de recettes,
tout à fait.
Que ce soit pour le budget de l'État ou pour la sécurité sociale. Les déficits ne vont pas se réduire à hauteur de ce qui était espéré. Et donc, la conséquence, c'est que la dette ne va pas se réduire à hauteur de ce qui était espéré. Et que donc, nous allons avoir une charge des intérêts qui va être de plus en plus forte. En fait, on n'y arrive pas, quoi. Si vous voulez, on n'y arrive pas. Alors que la Cour des comptes pointe l'optimisme gouvernemental. Et...
Qui table sur 1,4, 1,3 de croissance, hein, c'est ça, pour 2024.
2024, c'est 1%. Après avoir été 1,4, c'est 1%.
Au moment de présentation du PLF.
Tout le monde dit que ça, oui, ce sera moins.
Les déficits, vous disiez quoi ? On peut donner quelques chiffres ?
Oui,
c'est astronomique, mais allez-y.
Évidemment. Alors, l'année 2023 se finit moins bien, enfin, ou plus mal, que ce qui était déjà prévu, puisqu'on serait à 4,9 au lieu de 4,7. Bon, vous me direz, c'est 0,2. Mais 2024, 2025, jusqu'à 2027, parce que, comme vous le savez, on a fait une loi de programmation des finances publiques, qui est que, normalement, en 2027, on doit avoir un déficit en dessous des 3%, le fameux seuil des 3%. Mmh. Et en fait, tout le monde est d'accord pour dire, malheureusement, qu'on pourrait être entre 4 et 4,4. Ce qui fait que la France, 4,4% du PIB.
Donc, ce qui Donc, fait...
Le PIB en 2027, c'est grosso modo 3 000 milliards. Mmh. Donc, vous faites un calcul, 4,4%,
ça fait 12 milliards.
De 3 000 milliards, ça fait 130 milliards à peu près.
130.
Voilà. Et dans cet ensemble-là, il y a le déficit de la Sécu qui, lui, sur 4 années de temps, prend 60 à 70 milliards d'euros supplémentaires.
Vous rappeliez quand même que les déficits de la Sécurité sociale, si on se reste sur ce champ strict, datent de 1986 pour nos auditeurs.
Pour l'assurance maladie.
Certains n'étaient pas nés,
bah voilà,
peut-être.
Bah voilà.
En tout cas, l'espace européen n'était pas encore né, donc on a toujours connu la déficit. Hein.
Deux ans avant, oui.
Alors, qui dit déficit dit alors, on peut présupposer qu'on va essayer de corriger la trajectoire.
Oula.
Donc, deux possibilités. On va commencer par la première. Sur le champ des recettes supplémentaires, c'est compliqué.
C'est très compliqué parce qu'il y a un engagement du gouvernement et du président de la République de ne pas augmenter les impôts, même si quelque part, d'une autre façon, on les augmente. En tout cas, les impôts directs, impôts sur le revenu ou impôts sur les sociétés.
Même les baisser. D'après les annonces d'Emmanuel Macron, les baisser les impôts pour une tranche de 2 milliards.
Mais écoutez, la Cour des comptes, elle a fait un calcul intéressant. Elle a calculé combien, vous savez que le président de la République, au moment de la Covid, avait dit le quoi qu'il en coûte.
Oui.
Le quoi qu'il en coûte, c'est 280 milliards d'euros sur 3 années et demie. Hein, la Cour, elle a fait, on a tout mis. Hein.
C'est pas loin d'être le budget annuel de la science maladie.
C'est le record d'Europe. C'est le record d'Europe. Alors moi, je veux bien qu'on nous explique que nous sommes dans un pays libéral ou ultra-libéral, mais moi, je me marre quand j'entends ça. Alors, évidemment, ils ne sont pas financés. Ça alourdit la dette et les déficits, etc. Tout ça est connu. C'est le record d'Europe, Alexandre. Hein. C'est 12 points de la richesse nationale. Voilà. Bon. Il fallait le faire, oui, il fallait le faire, mais peut-être pas autant que ça. Hein.
Il fallait rappeler qu'à l'époque, entre guillemets, du quoi qu'il en coûte, la dette sociale, entre guillemets, sur les marchés financiers était empruntée à taux négatif.
Oui.
Ce qui n'est plus du tout le cas. Ce qui n'est plus du tout le cas.
Non, non, c'est
maintenant,
fini.
On est malheureusement.
On est négativement en positif.
Et voilà. Donc,
sur les taux d'intérêt.
Donc on paye des intérêts. Là, on
voilà,
n'en payait
on
pas.
On les paye, oui.
Là, on n'en payait pas.
Voilà. Cher, c'est 2 à 3 milliards d'euros par an, Alexandre. Ah. Plutôt 3 maintenant. Ah. 3 milliards. Et tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire que ça, c'est comme les plumes de l'oie, ça glisse dessus. Quoi.
Alors, on disait recettes, c'est compliqué. Alors, les économies.
Ah, les économies. Bon. Les économies, c'est plutôt vous à parler, parce que...
Ah, ça serait pas de beaucoup parler.
Alors, sur les retraites, le ministre des Comptes publics s'est hasardé à laisser entendre qu'on pourrait ne pas revaloriser, mais il s'est fait tirer l'oreille par le président de la République très rapidement pour dire qu'il n'en était pas question. Donc, pas trop sur les retraites, pas vraiment. Il y aura peut-être des économies sur ce qu'on appelle les prestations en espèces, les prestations familiales. On verra bien si pour 2025 et après. Et puis sur la maladie, je vous renvoie la balle, Alexandre, c'est vous l'expert en assurance maladie. Que prépare la CNAM ?
Alors sur le volet économie, c'est beaucoup plus large que le deuxième sujet.
Oui, évidemment.
Bien évidemment. Alors je crains malheureusement que ce ne soit pas les économies
Je vous demandais de faire un point quand même sur les négociations parce qu'on en est où ? Parce que tout le monde... il se passe quoi ?
Il n'y a pas d'économie déjà, parce que par définition, je ne pense pas que les partenaires conventionnels veulent venir à la table en disant « comment moins dépenser ?» Par principe, c'est un peu compliqué. C'est pas vraiment la tendance de fond. Donc, on en est actuellement. Alors, pour rappeler, donc on a eu un échec l'année dernière, qui avait débouché sur un règlement arbitral qui était en place depuis mai 2023. On est sur une relance du processus conventionnel. Or, on se rend compte qu'en fait, la négociation est beaucoup plus longue que ce qui était prévu initialement, parce qu'elle a commencé en novembre. Nous sommes actuellement mi-mars, et le prochain rendez-vous est début avril. Pas forcément un rendez-vous conclusif, ce qui est
dire c'est qu'on est parti. Mais c'est fait exprès, ça, ou quoi ?
La question
là-dessus.
Le sentiment, c'est que...
On fait traîner les choses ?
Alors, je ne peux pas prêter aux gens des intentions qui ne m'ont pas officiellement présentées. Après, tactiquement, on parlait des comptes publics. C'est vrai que l'assurance maladie a plutôt intérêt, entre guillemets, à ce que... Parce que je vous rappelle qu'entre la signature d'une convention et la mise en application d'une convention, il y a 6 mois de délai, d'attente. Donc c'est vrai que plus on traîne, plus les dépenses nouvelles... promises entre guillemets par le nouveau cadre conventionnel entre guillemets sont décalées dans le temps, ce qui c'est-à-dire qu'on impacterait sur le PLFSS 2025 et pas sur le Frolicat 2024. Donc du coup, oui, il y a peut-être un intérêt. Non, surtout c'est éminemment compliqué. Il y a très clairement un changement de stratégie au niveau de l'assurance maladie par rapport à l'échec de l'année dernière. Je rappelle que l'année dernière on avait échoué parce qu'on avait eu deux choses en même temps, c'est-à-dire la revalorisation du tarif de la consultation qui était moindre que ce compté par les syndicats médicaux, et, vous savez, le grand projet de contrat d'engagement territorial sorti du chapeau à la dernière minute, qui a irrité l'ensemble des partenaires. Là, l'assurance maladie a changé de son braquet et sa stratégie.
Bon, donc, alors, là, on a un chapitre revalorisation de la nomenclature sur les actes fondamentaux, le C, le CS, c'est ça ?
Le G, surtout le G,
bon,
la consultation générale.
Plus des incitations particulières concernant des choix d'organisation des soins, de suivi des patients lourds, compliqués.
En gros, quand je vous disais c'est en plusieurs temps, c'est pour ça que l'assurance maladie fait une réunion tous les mois à Noémie, parce qu'il faut digérer entre guillemets les annonces.
Ouais.
Celle du début de février marquait un tournant parce qu'il y avait une volonté de mettre au centre des négociations le médecin traitant. Le deuxième, c'est donc avec un volet avec le fameux tarif à 30 euros de la consultation, hein, que vous avez entendu.
Et
la préconisation de l'instauration d'un nouveau forfait unique cette fois-ci. On arrête le forfait structure, forfait rémunération, on fait un seul forfait unique qui est plus un forfait guidé sur une logique de patientèle que d'acte. C'était le premier acte fondateur.
Mais qu'est-ce qu'on met dedans ?
C'est un peu fourre-tout. C'est un peu fourre-tout.
Donc ça veut dire que c'est acquis, ça ?
Alors oui, ça, on pensait que c'est acquis.
À partir du moment, écoutez Alexandre, on va dire les choses très directement, à partir du moment où vous globalisez un forfait pour plusieurs choses qui avant étaient...
Ah, c'est pas pour faire moins.
C'est pas pour faire moins.
Non, l'idée... Alors, si on parle de chiffres, je citerai le directeur de l'assurance maladie, Thomas Fatome, qui expliquait que, grosso modo, entre le périmètre actuel et le nouveau qui serait englobé, ça pourrait faire un gain, entre guillemets, de revenus allant de 10 à 20% selon les acteurs. Ce qui est quand même
considérable. C'est énorme.
Ce qui est énorme. Non.
Non, mais attendez, vous connaissez, vous, des professions en France, fonctionnaires, territoriaux ?
Vous paraphrasez le directeur général de l'assurance maladie.
Salarié du privé, salarié du public, du parapublic, hôpitaux, machin, qui obtiennent des hausses de 10 à 20%. Moi, je ne connais pas.
Moi non plus. Mais en tout cas, c'est ce que l'assurance maladie.
Mais la CNAM n'est-elle pas trop généreuse ? Parce qu'il y a des économies, on finance ça comment ?
Alors, le problème, c'est que...
Est-ce qu'on a une idée globale du prix de tout ça ?
Vous dites les 10 premiers à 20%, chiffres, le chiffrage général qui était sur la première monture. Je parle de vraiment la partie médecin généraliste. Hein, je le fais court. Le chiffrage annoncé sur lequel je pense que je le trouve un petit peu sous-évalué, est de 700 à 800 millions d'euros. Je pense que c'est un peu plus que ça, globalement.
Oh, c'est une galéjade, ça.
C'est une galéjade. Sachant que, depuis donc, quelques jours, donc, il y a eu le quatrième round, parce que les spécialistes sont montés au créneau en disant « Et nous, dans toute cette affaire ?»
Oui, je rappelle oui, on y a les a entendus.
Je vous rappelle qu'il y a deux collèges, hein, les généralistes et les spécialistes. Bon. On dit « Nous, on est un peu laissés sur le bord de la route. » Du coup, la science maladie est revenue à charge. Entre guillemets, on sanctuarise ce qui a été prévu sur les généralistes. Même on l'étoffe un tout petit peu.
Bon,
et on remet un peu plus, entre guillemets, sur un certain nombre de spécialités. Je parle de la psychiatrie, de la pédiatrie, de la gériatrie. Donc, tout un certain ensemble d'acteurs qui étaient un peu mis sur le bord de la route dans le premier round sont mis avec des revalorisations. Donc, le package total est beaucoup plus élevé, évidemment, que
combien
les...
Combien
Il ne donne pas le chiffre actuellement.
Pas le chiffre. Bon, voilà. Donc, enfin, je rappelle quand même que 54% des spécialistes sont en secteur 2, donc ils n'ont pas grand-chose à faire de ce genre de négociation.
Voilà.
Alors, les économies, parce que...
Ah. On
finance ça comment? Parce que finalement, on n'est pas loin d'une ardoise de 2 milliards d'euros en année pleine, une fois que ça, la montée
oui, bien sûr, sûr.
Machin.
Oui.
Donc la CNAM espère faire des économies.
Donnant.
Comme dirait l'autre, la dépense, elle est certaine, les économies sont potentielles, c'est ça?
C'est là où c'est vrai qu'il va y avoir un jeu un peu compliqué. Très clairement, je pense que l'intention initiale de l'assurance maladie était un peu de taper du poing sur la table. Vous vous rappelez ce fameux mantra du droit et devoir, avec l'assurance maladie retenant plutôt le devoir quand les syndicats retenaient plutôt le droit. On sent quand même qu'il y a, entre guillemets, l'assurance maladie revoit sa copie, assouplit sa copie. Par exemple, si on prend le fameux forfait médecin traitant unique, les agrégats qui devaient être dedans étaient des agrégats annuels, donc les médecins devaient les remplir sur une année d'exercice. Maintenant, on est sur 2 ans déjà pour les remplir, donc c'est-à-dire qu'on a doublé la période. Donc, il y a un certain nombre d'indicateurs qui
se croient.
Les économies, ce sont la pertinence. Et c'est sur la prescription, donc très clairement. L'assurance maladie...
Les indemnités journalières...
Alors, les IJ, évidemment. Alors,
il y a aussi, n'oublions pas, les forfaits. Le forfait médical sur les médicaments qui, lui, va augmenter.
La franchise.
Les franchises,
ça, c'est en dehors de la convention, ça.
C'est en dehors de la
convention. Et ça rapportera, au meilleur du cas, 500 millions d'euros.
Voilà.
Donc, voilà. Non, sur les économies, vous l'avez dit, c'est les IJ. Il y a tout ce qui est sur la prescription, les biosimilaires, où il y a des marges de manœuvre considérables. Je pense que là, très clairement, on se rend compte, d'après les datas d'assurance maladie, que les médecins n'ont pas fait évoluer, entre guillemets, leur prescription en optant pour des biosimilaires là où il était possible de le faire, sous forme de pathologie.
C'est pas nouveau tout ça. Hein.
Ah, c'est pas nouveau, mais par exemple, lors du dernier présentation, ils ont mis en exergue un dispositif qui était prescrit par des médecins spécialistes, qui était expliqué, la science m'a dit, expliquait qu'il y avait une marge de manœuvre de 400 millions d'euros rien que sur ça. Donc voilà. Donc dernier point aussi à voir, c'est évidemment la prévention. On se rend compte qu'en fait, alors là, les marges de manœuvre sont considérables. Quid ? L'assurance maladie rappelle que sur, entre guillemets, les défauts de dépistage d'un certain nombre de pathologies, notamment cancéro, on parle là de dizaines de milliards d'euros de coûts sur le long terme du fait de défauts de dépistage en amont.
Oui, dizaines de milliards d'euros, oui. Alors, si j'ai bien compris, parce que le point de départ, c'était quand même à la fois de concilier une relance conventionnelle et une politique de santé publique, et en même temps une meilleure économie de la santé. On n'est pas forcément au rendez-vous.
Je pense que tout simplement, si on parle très crûment, le point de départ, c'était de ne pas bloquer un système qui va déjà être bloqué pendant 5-6 ans du fait qu'on va être en problème de crise démographie médicale.
En plus.
De ne pas se braquer à ce niveau-là ceux qui exercent, qui vont devoir faire tampon sur cette période-là, et éventuellement commencer à embrayer sur une forme de médecine un peu plus, je prends beaucoup de guillemets, un peu plus payé à la performance qu'elle ne l'est actuellement.
D'accord.
Voilà.
Alexandre, avant de conclure, je recommande à nos amis auditeurs de lire le numéro 1254 d'Espace, parce qu'il y a deux papiers quand même intéressants, un peu plus que d'autres d'ailleurs en général. Il y a un papier sur les affections de longue durée qui est un sujet fort.
Où il y a des marges d'économie très importantes.
Peut-on réformer les ALD? Et puis, il y a une excellente interview de Gérard Raymond, président de France Associations Santé, sur la façon dont cette grande fédération d'associations de patients perçoit la situation. Ils sont un peu inquiets, quand même, je crois.
Critique, même, on peut
voilà,
le dire.
Voilà, même inquiets et critiques. Voilà, voilà Alexandre. Bah, écoute, merci à vous. On se dit merci mutuellement. Ouais. Voilà.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve prochainement pour un autre podcast de la rédaction d'Espace Européen. À très bientôt. Au revoir.